radio. Hein. Ah bon, alors.
Les rencontres d'Elios,
l'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommery.
Les rencontres d'Elios
avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien. Nanana.
Bah oui, c'est mieux. On n'arrive pas à se comprendre du coup. C'est mieux qu'elle y aille.
On va parler de Robert Houdin.
Ouais.
C'est bien, mais Robert Houdin.
C'est un coup à se perdre dans les zones magiques.
À disparaître.
Un coup à disparaître.
Mais en fait, la maison de la magie, c'est plus de 2000 mètres carrés. Du coup, c'est très très grand. Mais vous avez un bon guide, alors ça va. On a la chance d'avoir une très belle vue sur Blois, la cathédrale.
Oui, ouais.
Donc là, on arrive dans l'espace Robert Houdin. Alors, je dis, depuis le départ, je vous dis Robert Houdin, mais je simplifie un peu. Robert Houdin, c'est le nom de famille. Le prénom, c'était Jean-Eugène. Jean-Eugène Robert Houdin, dit Robert Houdin. Donc, bon, rappelez-vous, né à Blois. Au départ, lui, il a pour vocation d'être horloger, voilà, mécanicien. Il descend d'une famille d'horlogerie et donc il décide de devenir horloger. Et puis, un jour, il décide de se perfectionner et il va acheter un traité d'horlogerie. Mais le libraire se trompe et va lui remettre ce livre-là. Il va lui remettre le dictionnaire encyclopédique des amusements et des sciences. Qu'est-ce que c'est ce livre ? Ce n'est pas un livre de sciences ou de physique ou de mathématiques, c'est un livre de magie. Et donc dedans, il y a des tours de magie d'expliquer. Il y a deux volumes, normalement, là il n'y en a qu'un d'exposé. Et donc, dans ce livre-là, bien Robert Houdin va apprendre ses premiers numéros de magie, puisque finalement, au lieu de rapporter le livre, il le conserve et va s'intéresser à la magie et devenir magicien. Et après, il va avoir l'idée de combiner son adresse mécanique avec la magie, et donc de créer des spectacles de magie complets. Et c'est pourquoi, dans les spectacles de magie de Robert Houdin, on retrouvera des numéros de dextérité, certes, mais surtout des démonstrations d'automates, d'automates de scène, magie mécanique, voilà. Alors, ça, c'était pas présenté en spectacle. C'est-à-dire, alors c'est là où c'est difficile chez Robert Houdin de faire une chronologie, de se dire d'abord horloger, puis magicien. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour la magie, il y a l'idée de créer des automates de scène, mais en même temps, il y a le côté horlogerie, parce qu'il crée les horloges et les pendules mystérieuses avant d'avoir son théâtre à Paris.
Ouais.
Voilà. Okay. C'est après seulement qu'il va créer le théâtre. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais après, c'est vrai que la magie, elle est quand même présente partout. Et effectivement, pour moi, cet objet, c'est l'objet qui représente le mieux Robert Houdin. En plus, là, vous la voyez complètement restaurée, puisque je vous l'ai dit, on est musée de France. Donc, un musée de France a pour vocation de restaurer des œuvres. Et donc là, elle est comme neuve. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mécanisme apparent. Si vous regardez bien, vous avez les aiguilles qui sont sur le cadran. Il n'y a aucun mécanisme et pourtant, on peut la faire fonctionner. Donc c'est l'objet qui représente le mieux Robert Houdin. Pourquoi ? Parce que ça allie la mécanique, l'horlogerie et la magie. C'est-à-dire que c'est une espèce d'illusion de se dire comment les aiguilles peuvent tourner sur un cadran qui est complètement transparent. Il n'y a aucun rouage, aucun mécanisme.
Elle est belle, hein ?
Elle est très très belle. Et en fait, il y a tout un mécanisme qui est dans la partie en velours ici, un système d'engrenage, qui font tourner des engrenages dans un des dragons en bas, qui tourne comme ça, et au milieu il n'y a pas une colonne de verre, il y en a deux. Il y en a une qui est fixe, et une autre dans laquelle tout l'engrenage qui est en bas fait tourner un tube au milieu. on l'aperçoit un peu au milieu, il y a un tube à l'intérieur qui lui peut tourner. Et ce tube qui tourne va faire tourner dans la partie en V sous le cadran une barre qui tourne comme ça, et ce qui fait qu'il va entraîner une plaque de verre. Parce qu'en haut, il n'y a pas une plaque de verre.
Qui tourne.
En fait, il y a deux plaques de verre. Il y en a une qui est fixe avec les chiffres romains et une autre sur laquelle est fixée l'aiguille.
Okay.
Et en fait, ce n'est pas l'aiguille qui tourne, mais c'est toute la plaque.
Okay. Voilà. Vous nous avez dévoilé un tour.
Là, c'est vrai. Mais c'est intéressant de savoir comment elle fonctionne.
Ouais, complètement.
Mais comme il y a deux aiguilles, il y a une des deux aiguilles qui a son propre mécanisme en son centre.
C'était ingénieux pour l'époque déjà.
Ah, très très ingénieux, parce que là on est entre 1843 et 1850 à peu près. Donc Robert Houdin, l'horlogerie, il s'intéresse, il va déposer pas mal de brevets. Il aime le côté scientifique, la mécanique, mais ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est Robert Houdin, magicien. Et donc il ouvre son théâtre à Paris, le théâtre des soirées fantastiques. Là, vous avez son chapeau et sa baguette.
C'était déjà coutumier, le chapeau et la baguette ?
En fait, l'idée de Robert Houdin, c'est de s'habiller comme son public. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous alliez au théâtre, vous vous mettiez en costume, vous portiez le chapeau. Et en fait, Robert Houdin a simplement eu l'idée de s'habiller comme ses spectateurs. Ce que fera plus tard David Copperfield, quand il arrivera sur scène en jean et en t-shirt, c'était l'idée, c'était de s'habiller comme le public en face. Voilà. Aujourd'hui, s'habiller comme ça en magie n'a plus beaucoup d'intérêt, à moins de vouloir faire un tour de magie historique ou peut-être humoristique en recréant l'image classique du magicien. Mais si c'est premier degré, ça n'aurait pas beaucoup de sens aujourd'hui. En fait, c'est important de comprendre pourquoi Robert Houdin s'est habillé comme ça. Robert Houdin, quand il accueillait les visiteurs dans son théâtre, il avait une scène qui était à peu près grande comme celle-ci. Il y avait ce qu'on appelle au centre de la scène la table du milieu, qui était honteusement truquée, qui lui permettait, qui avait des petites trappes, qui lui permettait d'actionner aussi tous les automates. Et donc, c'était pas un grand théâtre, c'était une petite salle de spectacle, un peu plus de 100 places, et donc là, il présentait toutes ses démonstrations. Donc, je vous l'ai dit, des démonstrations de magie, il y avait des manipulations des tours de cartes, et des automates, donc des automates de scène. Là, on voit sur la vidéo le tour du pâtissier royal, où là, on a l'automate est remonté, on demande à quelqu'un dans le public de choisir un dessert, n'importe lequel, une brioche, on voit le petit pâtissier qui travaille, et tout à coup, qui livre une brioche sur le plateau. On va le voir d'abord, il vient passer la commande, on attend, et ensuite l'automate vient livrer la brioche. Robert Houdin offrait la brioche au spectateur, mais il fallait payer, la personne donnait de l'argent et l'automate rendait la monnaie. Voilà. Donc voilà un peu le genre de tour de magie que l'on pouvait découvrir. On y voyait également le tour de la suspension éthérienne dont on a parlé tout à l'heure, avec les deux le tabouret, l'enfant monte sur le tabouret, place la canne et s'endort et suspension. On a d'ailleurs ici un des tabourets qui servait à la suspension éthérienne. Et puis des démonstrations d'automates purs, comme par exemple là le voltigeur au trapèze. Donc c'est un petit Antonio Diavolo, c'est un trapéziste qui faisait un numéro. Mais là on est plus dans la démonstration mécanique, si je puis dire. Mais magique en même temps, parce qu'on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Il faut imaginer qu'à l'époque, c'est impressionnant de voir un petit automate comme ça qui prend vie. C'est sûr qu'aujourd'hui, à l'heure des hologrammes ou autres, mais techniquement quand même, vous allez voir surtout qu'à un moment donné dans la vidéo, là on le voit l'automate, là il se tient pour l'instant à la barre, mais à un moment il se lâche complètement, il tient plus que par les jambes, donc il y a tout un système d'électro-aimant, donc c'est quand même en avance sur son temps.
Il fallait le fabriquer ce...
Exactement, oui. Alors automate qui aujourd'hui qui appartient à un collectionneur américain, qui est aux États-Unis.
Et le coup d'objets venant des États-Unis.
Alors, nous, on les a pas parce que justement ils sont aux États-Unis. De Robert Houdin directement lié à la magie, on a malheureusement pas grand chose. Enfin, pas grand chose. On a le fameux tabouret, on a la clochette qui servait autour de la seconde vue. Robert Houdin empruntait des objets dans la salle. Le fils de Robert Houdin avait les yeux fermés parce que Robert Houdin travaillait avec ses enfants. Et donc, il demandait qu'est-ce que j'ai dans la main. Et il sonnait juste la clochette comme ça. Et l'enfant était capable de deviner, une espèce de numéro de mentalisme avant l'heure. Voilà, deviner ce que le spectateur avait dans la main. Alors, Robert Houdin, très célèbre, et pourtant, il n'a pas été magicien très longtemps. Enfin, la magie a toujours été là, mais en termes de spectacle au théâtre, il a seulement tenu le théâtre pendant 7 ans, quand il va quitter le théâtre, par la suite le théâtre va déménager, ça va devenir le théâtre Robert Houdin, ça va porter son nom, il y aura différents directeurs, et le directeur le plus important, c'est le dernier, le plus célèbre du moins, c'est Georges Méliès. Ah, oui. Georges Méliès, qui est magicien, et qui va découvrir l'appareil du cinématographe, l'appareil des Frères Lumière, et donc qui va découvrir finalement les effets spéciaux du cinéma. C'est-à-dire, avant l'arrivée du numérique, il faut savoir que pas mal de trucages dans les films étaient réalisés à la manière de Méliès. Voilà. Donc Méliès vraiment est un... Finalement, le cinéma doit beaucoup aux magiciens. Voilà. C'est... Alors, le cinéma existait avant lui, mais lui, vraiment, l'aspect effets spéciaux. Et ça, souvent, on a un peu tendance à oublier en France que les magiciens sont quand même à l'origine. Il faut savoir que c'est les magiciens qui tenaient les salles de théâtre, qui ont développé vraiment le côté spectacle et notamment présentation de films. Et donc, des gens comme Méliès sont très, très importants dans l'histoire du cinéma. C'est pas pour rien que des réalisateurs comme Scorsese ont réalisé Hugo Cabret en hommage à Georges Méliès. Et Robert Houdin, quand il quitte le théâtre, il revient à Blois. Il va s'installer au prieuré à Saint-Gervais-la-Forêt. Donc, je vous l'ai dit, de l'autre côté de la Loire. La maison existe toujours, mais elle n'a plus rien de Robert Houdin. Mais à l'époque, elle était complètement, si je puis dire, truquée. Il y avait des mécanismes un peu partout. Voilà, donc toute la maison. C'était une maison équipée avant l'heure, puisqu'en fait, vous aviez la sonnette, vous appuyez sur la sonnette, la plaque se retournait, indiquait entrée, le portail s'ouvrait tout seul. Voilà, il y avait...
C'était resté un grand enfant.
Je pense que pour faire de la magie, il faut conserver son âme d'enfant. Et je crois que c'est essentiel. Ouais. Et après, l'objectif, et c'est notamment l'objectif un peu de la Maison de la Magie, souvent, il y a quand même parfois des visiteurs qui viennent pensant c'est pour les enfants. Moi, je suis convaincu que la magie, ce n'est pas que pour les enfants. C'est vraiment pour tout le monde. Et quand effectivement, au travers d'un spectacle, une animation ou autre, un spectateur finalement retrouve quelque part son âme d'enfant, si tant est qu'il est perdu, bien évidemment, c'est une réussite. Ouais.
Il y a beaucoup d'écoles qui viennent à la magie.
Énormément. C'est-à-dire que quand on ouvre en avril, donc généralement c'est la période des vacances scolaires, donc là c'est très familial. Après, dans la période mai-juin, on travaille beaucoup avec les scolaires. On a notamment une équipe aussi de médiatrices culturelles. On propose des activités pédagogiques. Donc on a des activités pédagogiques autour de la magie, mais aussi autour de l'horlogerie. On explique les engrenages, comment ça fonctionne. Donc on peut faire des visites guidées, des ateliers. On a du matériel pédagogique adapté. Et juillet-août, on revient plus aux familles. Voilà. Mais c'est vrai que sur la période mai-juin, on a beaucoup de scolaires. Et puis juillet-août, centre de loisirs pas mal aussi.
Du coup, on avait une question aussi sur les partenaires. Vous en avez cité déjà. Vous avez parlé de la mairie qui a été à l'initiative. Là, on vient de parler des écoles. D'autres partenaires sur le local et puis le national.
Alors, sur le local, alors on a comme on dépend de la collectivité, on a ce qu'on appelle le cercle des mécènes. C'est-à-dire que là, il y a des entreprises qui peuvent participer. Soit par du mécénat financier. Ouais. Mais ça peut être aussi du mécénat de compétences. Quand on refait une salle, je sais pas, une entreprise qui peut dire nous, on peut vous prendre en charge la peinture, voilà, des choses comme ça. Donc ça marche pas mal comme ça. Après, sur l'extérieur, on travaille avec les associations de magie. Il faut savoir qu'en France, il y a la Fédération française des magiciens de magie qui existe. Ça vient de changer de nom, donc la FFM, Fédération Française de Magie. Donc on travaille ensemble. Eux, ils produisent notamment des spectacles avec l'équipe de France de Magie, donc il nous arrive de travailler ensemble. Alors, on a des associations locales. Donc, siège à la Maison de Magie, deux associations, le CIPI, le Centre International de Prestidigitation et l'Illusion, et le CNAMI, le Conservatoire National des Arts Magiques et de l'Illusion. Donc ça, c'est vraiment pour nous des partenariats importants. Après, on travaille pas mal aussi avec des collectionneurs privés, c'est-à-dire que on a chaque année une exposition temporaire. Et donc là, selon les besoins, on travaille avec les collectionneurs. Voilà.
Vous avez fait un budget, vous avez le budget annuel, la Maison de la Magie, ça a été avec
nous. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres comme ça sans dire de bêtises, mais effectivement, on a un budget qui est alloué pour de la programmation culturelle. On a des budgets. Et après, comme on dépend de la collectivité, c'est un peu chaque service des bâtiments vont gérer le parti plutôt volet technique. Ouais. Donc là, c'est vraiment.
C'est divisé du coup.
Ouais, c'est assez divisé, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions sur Robert Houdin? J'ai fait un tour très rapide, parce qu'il y aura 10 000 choses à dire, mais...
Ouais, non, c'est très bien.
Ça va?
Continuons.
Alors vous pouvez apercevoir de la salle Robert Houdin, comme c'est la salle où on présente Robert Houdin, mécanicien, un des dragons. Voilà. Oui. Donc là, souvent, comme les dragons sortent toutes les 30 minutes, eh bien, il y a souvent des visiteurs ici présents à au moment de la sortie pour le voir de près sortir. Voilà. Donc les dragons sortent aux fenêtres uniquement quand la maison de la magie elle est ouverte au public.
Ouais. Voilà. Sinon, là, ils ne fonctionnent pas en ce moment.
Non, ils hibernent. Okay. Ils se reposent. Là, c'est surtout que on n'est jamais à l'abri d'un souci technique. Donc si un dragon devait rester coincé ou autre, c'est bien qu'il y ait du personnel pour venir les rentrer.
Thank you.
de marcher.
Oui. Vous voyez. C'est inquiétant si on va éloigner. Vous êtes directeur depuis combien de temps à la Maison de la Magie ?
Ça fait 4 ans. 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. 5 ans. Alors là, on arrive au dernier étage, enfin, c'est le faux dernier étage en réalité, hein. Ça n'est pas rien, notre secret, on a un étage supérieur pour les activités pédagogiques, mais normalement le visiteur, pour lui, c'est le dernier étage. On est dans ce qu'on appelle le grenier magique, donc c'est un espace qui a été créé il y a 4-5 ans maintenant. Et là, dans cet espace, le visiteur est accueilli par un magicien et on lui propose d'apprendre des tours de magie. Donc il y a des petits cadres dorés, dans chaque cadre il y a un tour de magie automatique, c'est-à-dire que vous avez juste à suivre les indications, et si vous suivez bien les indications, vous réussissez le tour de magie. Donc les visiteurs peuvent ensuite prendre des photos des cadres pour pouvoir les reproduire à la maison. Il y a des endroits où il y a des cordes, des cartes, les visiteurs peuvent s'amuser à... On aime bien aussi l'idée qu'un visiteur nous fasse un tour de magie, et pourquoi pas qu'il explique aux autres visiteurs. Et puis le magicien qui est présent, bien de temps en temps, bah, explique quelques trucs.
C'est une bonne musique, quoi.
C'est ça. En fait, c'est des micro-ateliers. C'est même un endroit où vous pouvez faire des ombres chinoises. Et donc, ça devient un lieu vivant. Et moi, mon souhait, c'est que les magiciens qui sont engagés à la Maison de la Magie soient proches des visiteurs. L'idée étant que... c'est pas le musée de la magie, c'est la maison de la magie. Donc quelque part, c'est la maison des magiciens. Donc vous pouvez rencontrer des magiciens, échanger avec eux. Et ça, pour moi, c'est un vrai plaisir. Ouais.
C'est un côté vivant.
Exactement. Mais la magie est un art vivant. Vous avez beau mettre n'importe quel objet de magie dans une vitrine, c'est intéressant pour celui qui s'intéresse aux objets de magie. Mais si vous pouvez le voir à côté en démonstration, c'est quand même mieux.
Mais oui. Et puis le musée, effectivement, ça fige dans le temps...
Et malheureusement, ça peut faire peur aussi. Alors que là, la maison... Et puis, vraiment aussi, c'est basé sur l'échange. C'est-à-dire que des fois, on a des magiciens, il ne faut pas forcément de magie tout le temps. Il y a des gens qui ont juste envie de savoir comment est-ce que vous avez appris la magie, d'où ça vient, pourquoi, est-ce que vous avez gardé votre âme d'enfant, et tout ça, c'est... Et puis, on a vu naître des vocations aussi, des visiteurs qui se disent « Ah, mais moi aussi, je pourrais devenir magicien ».
Oui, puis il y a un côté... moi, j'ai pu bénéficier de la Maison de la Magie en emmenant des enfants, ouais, voir des spectacles. Et c'est difficile de trouver des... Enfin, en dehors de la Maison de la Magie, aller voir un spectacle de magie qui vaut le coup et qui est abordable aussi, financièrement. Oui. C'est chouette ce qu'offre la Maison de la Magie.
C'est sûr que là, on sera le plein tarif en janvier à 16 euros. C'est vrai que pour 16 euros, vous avez donc un spectacle de 30 minutes. Là, c'est le plein tarif, hein, bien évidemment. Après, il y a les tarifs réduits, tarifs enfants. Un spectacle de 30 minutes. Vous avez ici une animation qui dure 15 minutes, qui est répétée plusieurs fois par jour. Au Salon des Magiciens où on va aller, il y a un autre spectacle de 15 minutes. Donc déjà, il y a une heure de spectacle. Ouais. Ensuite, vous avez la visite de la maison. C'est vrai que si on compare par exemple au cinéma, alors qu'au cinéma, vous regardez un écran et pas du tout des acteurs vivants, c'est vrai que c'est très abordable. Ouais.
Et puis on ne le trouve pas ailleurs, le spectacle de magie, enfin il faut faire des centaines de kilomètres pour aller...
Oui, on a quelques spectacles de magie qui tournent en France, mais c'est vrai que souvent on est sur sur d'autres tarifs, c'est des soirées uniques, voilà. Donc c'est plus compliqué. Ouais.
Ça démocratise.
Après, là, c'est tout l'intérêt aussi de dépendre de la collectivité. Il y a volonté aussi de faire connaître la culture magique, que ça reste abordable... Vraiment pour tout le monde.
C'est venu comment cette idée de grenier magique?
Alors le grenier magique, j'ai eu cette idée, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on... Avant, ici c'était une salle qu'on appelait l'hallucinoscope, c'était une illusion d'optique, où on vous mettait un casque et on déambulait, et puis est arrivé quelque chose qui s'appelle la Covid, où là, mettre des casques sur la tête des visiteurs, c'était plus possible. Donc il a été décidé du coup d'arrêter ça, et on a tout de suite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et première idée, ça a été de créer un lieu d'animation. Donc la salle était noire, une petite scène, et on présentait de la numéro de magie toute la journée ici. Et puis après, quand j'ai pris la direction, j'ai voulu remettre cette forme de magie que l'on faisait ici, tout en bas, au Salon des Magiciens, la salle qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais ici, il fallait quand même trouver quelque chose. Et je me suis dit, ah, ben, on va faire un... Et comme on avait interrogé les visiteurs, le retour qu'on avait souvent, c'était, on aimerait bien apprendre un tour de magie. Et je me suis dit, ben, on va créer un lieu où on apprend des tours de magie. Mais pour moi, ce n'était pas satisfaisant. Enfin, il m'était dit, il faut qu'on trouve autre chose que ça. Donc, il faut créer un univers, une ambiance, parce que c'est quand même important que le spectateur, ben, il soit plongé dans une ambiance. Et donc, d'où l'idée de créer donc, un décor de grenier. Donc, j'ai fait un premier dessin d'un grenier. Puis après, on a travaillé avec un scénographe qui a imaginé l'espace.
Bah moi je trouve qu'on s'y sent bien dans ce grenier.
Ah bah moi aussi.
J'aime bien.
Ça va bien.
Le mettre en sécurité dans le grenier.
Franchement ouais. J'emménagerais bien ici moi.
Oui. C'est ce que je me disais aussi un peu. Un grand loft, c'est pas mal.
Et qu'est-ce que tu penses du grenier?
Plein centre.
Pareil.
Bon, il fait chaud, des fois il peut faire un peu chaud l'été, un peu plus froid l'hiver, mais.
Et il n'y a pas de fenêtres.
Il y a des fenêtres.
Il y a des fenêtres?
Ouais.
Elles sont cachées?
Tout est faux là.
Ok. Et pourquoi le vélo?
Pourquoi pas?
C'est un grenier, donc on met un peu tout.
Ce qu'on veut, ouais.
Pourquoi un ventilateur qui tourne?
Ouais, parce que ça c'est pour l'été, je vais l'arrêter.
Ok.
C'est assez grand. Hein.
Ouais, c'est très chouette.
Non mais c'est juste l'idée de vraiment créer une ambiance.
Bravo.
Et en fait on essaye à chaque fois, que ce soit dans la salle des grandes illusions, là on est plutôt un peu dans les réserves de la maison de la magie, là le grenier. C'est pour ça qu'on a même d'autres projets autour de la salle Robert Houdin. Pour à chaque fois, c'est un peu, on est musée, mais on a un musée un peu hybride parce qu'on a, on a le côté collection, donc l'aspect conservation très important. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on aille vers des présentations plus ludiques. Et c'est pour ça que par moment, on peut être comparé à parc d'attraction, du fait qu'il y ait des spectacles vivants, animations. Et on est un peu entre les deux. Et donc, il y a un compromis à trouver entre... Et je crois beaucoup au décor. Là, on a refait la boutique cette année. L'idée était de créer un cabinet de curiosité, que ce ne soit pas juste une boutique classique. Voilà, l'idée, c'est à chaque fois créer des ambiances. Et ça contribue à la magie.
Ouais. C'est la magie du lieu.
La magie du lieu, tout à fait, ouais.
Okay.
C'est une maison étonnante, quoi. On passe d'une ambiance à une autre.
Ouais. Ouais.
Continue.
Ouais. Alors, je vais refermer. Je vais laisser avancer. Là, on descend par un escalier. On va prendre l'ascenseur en face de vous. On descend par un escalier gris, mais à chaque fois, c'est double escalier. C'est un peu comme à Chambord ici.
Un double révolution.
Exactement. C'est-à-dire que là, on a un escalier gris et de l'autre côté, on a un escalier rouge. Donc, on peut monter, descendre.
Les deux côtés de la maison.
À chaque fois, oui.
Ouais.
Un peu moins dans la partie inférieure, mais alors, ici, c'est assez net. Tout à l'heure, on est monté par l'escalier rouge, alors que là, on pourra descendre par l'escalier gris.
Ok.
Ah oui. Ouais. On est fermé. Hein. C'est pour ça que le
mec. Il disparaît l'ascenseur, non?
Il arrive.
Il est là.
Magique, hein? C'est magique, hein?
Donc au total, c'est 5 niveaux.
Allez, 5 niveaux.
Et il y en a un secret qui n'apparaît pas ici, mais qui est la salle pédagogique.
Où vous accueillez les écoles?
Oui, écoles, ouais. Associations, c'est notre salle de réunion. Et puis aussi nos archives.
Et là, on va au moins 2.
Moins 2, oui.
C'est inquiétant. On va sous terre. Hein.
Bah, on était déjà sous terre au moins 1. Bon, on descend encore plus bas.
Oui, donc on va dans le théâtre.
Ouais.
Thank you.
Bon, là, les bancs et chaises ont été enlevés parce qu'on a accueilli la semaine dernière une soirée cocktail. Donc, parce que c'est la maison de la magie, quand elle est fermée, elle peut être louée. Voilà, les salles peuvent être réservées pour des événements.
Donc, c'est ça. Professionnel ou personnel ?
Bah, professionnel, oui, oui. C'est-à-dire que la semaine dernière, c'était une entreprise. Et, voilà, ils faisaient une réunion, puis après, ils organisaient un cocktail dans cette salle-là. Voilà. C'est pour ça que cette salle-là, on l'avait refaite il y a 4-5 ans, justement, pour qu'elle soit adaptée. On avait enlevé la moquette, notamment, pour pouvoir faire des cocktails. Ouais, okay. Des choses comme ça, ça a l'air tout bête, mais voilà, c'était pensé. Et cette salle qu'on appelle donc le Salon des Magiciens, mais elle change chaque année. C'est-à-dire que chaque année, ici, on accueille une exposition temporaire différente. Donc là, cette année, on avait une exposition sur la magie foraine, ce qu'on appelle les entresorts forains. Et donc chaque année, on propose une nouvelle exposition. Et en plus de l'exposition qui se fait tout autour de la pièce, ici, il y a donc des chaises et des bancs en direction de la petite scène, puisqu'on a des spectacles de 15 minutes qui vous sont présentés ici. Voilà. Qui ont lieu soit avant ou après le spectacle du Grand Théâtre. Ce qui fait que le visiteur, selon l'heure à laquelle il arrive, il en profite ou avant ou après.
Okay. Voilà. Je crois que je n'étais jamais venu là.
C'est vrai ? Ouais. Vous étiez allé directement au théâtre à chaque
fois ?
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, prochaine fois, venez là après. Okay. Ou avant, selon l'heure à laquelle vous arrivez. Ouais. C'est vrai que souvent, les habitués de la Maison de la Magie allaient directement au théâtre. Voilà. Aujourd'hui, on essaye et on répartit comme ça, nous, les visiteurs dans la maison, entre le grenier et ici, voilà, les différents lieux d'animation.
Ici, il y a un lapin, justement.
Il y a un lapin magicien, voilà, qui a un petit costume, exactement, ouais. Donc là, aujourd'hui, ça, c'est vraiment devenu un lieu de spectacle en plus de la salle de spectacle. Vraiment.
Le spectacle, il en continue toute la journée
Non, c'est des... Alors, ici, il y en a 6 représentations de 15 minutes par jour. À côté, c'est des sets de 30 minutes. Donc, c'est 3 à 4 par jour. Voilà, parce que c'est quand même des spectacles qui sont assez physiques, hein, donc... Il faut aussi laisser le temps aux artistes de se repréparer. De... Le diable, toujours le diable.
Il y a des affiches encore.
Ouais. Affiches. Bah, on retrouve là l'affiche de Marbrus, c'est la même. Lady Goss, c'est l'affiche de la malle qu'on a vue là-haut. La malle rouge, c'est l'affiche qui correspond.
Okay.
Une des affiches, parce qu'il y avait plusieurs affiches. Et donc ici, c'est le théâtre. Alors la Maison de la Magie, quand elle est fermée, bien évidemment, ça continue de travailler. Là, en ce moment, il y a du bureau de vérification qui est là, des contrôles de ce qu'on appelle les perches. C'est toutes les perches mécaniques au plateau. Donc on vérifie tout ça avant pour la préparer à la prochaine réouverture.
Combien de places à peu près ?
Donc là, on a 300 places, un petit peu plus de 300 places, voilà, au théâtre. Et notre objectif, c'est de le remplir à chaque fois.
Et lui, il a été créé dès le début de la Maison de la Magie. Ouais. Il était déjà présent
dans les années 90. Donc, ils ont ouvert la place du château, hein, parce que la maison existait, je vous l'ai dit.
Ouais.
Ils ont mis la maison sur pilotis. Ils ont ouvert toute la place du château, parce que là, pour vous situer, derrière le rideau noir, là, au-dessus, c'est le manège.
D'accord.
Qui est sur la place.
Ah oui.
Voilà, okay. Quand on retombera dehors, vous verrez, il y a le manège à l'extérieur. Juste avant le manège, il y a des grilles au sol. C'est notre arrière-scène, là. On peut descendre du matériel par là, si besoin. Non.
Ça arrive là.
Ouais, ça arrive là. Là, on est... Là, le restaurant a démonté la terrasse, mais au-dessus de nous, c'est un restaurant, là.
Donc, il a fallu creuser tout ça, tout cet espace-là.
Toute la place du château.
Oh là là, c'est un chantier monumental.
C'est monumental. Ouais. Ceux qui en parlaient le mieux à l'époque, c'était ça a changé de propriétaire, mais les restaurateurs qui étaient sur la place.
Ouais.
Qui est à l'origine de la Maison de la Magie ?
En fait, c'est du temps de l'époque de Jacques Lang, qui était maire de Blois. Et puis après, ça a été aussi influencé par des magiciens, et notamment des magiciens comme Georges Proust, Christian Fechner, Gérard Majax, qui avait un festival de magie à Blois. C'est un peu un collectif, puis vraiment cette idée de présenter l'art de la magie. Ouais.
Et donc dès le départ, il y a des magiciens qui sont impliqués dans ce projet.
Dès le départ, c'est même les magiciens qui donnent l'idée.
Okay.
C'est-à-dire que dans les années 60, il y avait un musée de la magie à Blois, qui était tenu par Paul Robert Houdin. Au décès de Paul Robert Houdin, sa veuve va donner la collection à la ville de Blois. Donc les objets de magie vont longtemps être exposés au château de Blois. Et après, les objets sont présentés, puisque c'est une obligation d'un musée, il faut présenter les objets. Mais après, ça en restait là. Et donc, sous l'impulsion des magiciens, la mairie de Blois a décidé effectivement de créer un musée dédié complètement à l'art magique. Ça va, messieurs ?
effectivement, il y a des vérifications.
Oui, contrôle. Ils font ce qu'on appelle la vérification des perches. Donc en fait, c'est des perches sur lesquelles on accroche les projecteurs.
D'accord.
Il faut vérifier. Donc ils ont amené des poids qui sont très lourds. Là, de... Chaque poids fait 25 kg. Ils vont charger la perche et ils contrôlent que bah, ça tient bien. Pour être sûr que pas un comédien qui se prenne une perche sur la tête.
Oui, c'est plus rassurant. Déjà.
C'est très rassurant. Restez concentrés. Je pense vous avoir fait le tour de la maison. Après, si vous avez d'autres questions, dites-moi.
Il y en avait une, mais elle se recoupe un peu avec la question de Cassandre tout à l'heure. On se demandait si la magie, c'était toujours un art. Vous avez parlé d'artistes tout à l'heure quand vous avez présenté les trois, mm-hmm. les trois magiciens qui vont venir pour le festival Close-Up. Est-ce qu'il est encore à la mode? Est-ce qu'il n'est pas un peu supplanté par le numérique? Et on en a parlé avec Méliès, mm-hmm. le cinéma. Mais est-ce qu'il y a toujours une tendance à la magie?
Moi, je considère que la magie est un art. C'est un art à part entière. Et c'est justement ce qu'on souhaite nous défendre à la Maison de la Magie. Souvent, la magie a été associée à d'autres arts, comme si finalement ça ne suffisait pas... faire juste de la magie.
À soi seul.
Ouais, alors que je ne suis pas d'accord. La magie, vraiment, quelqu'un qui vous présente un beau numéro de magie, c'est efficace. Je ne crois pas que la magie soit en danger. Il y a de plus en plus de magie. On en voit beaucoup. C'est-à-dire qu'on parle du numérique. Il y a beaucoup de magiciens qui font de la magie dite numérique. Alors après, là, nous, les magiciens, les avis divergent. Est-ce que c'est bien de faire un tour de magie avec un iPad, avec un iPhone? Est-ce que c'est magique ou est-ce qu'on ne se le dit pas, bah, c'est l'appareil qui fait tout? Je trouve ça intéressant, la magie numérique, quand il y a une interaction. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez sur votre téléphone un billet de banque et d'un seul coup, vous faites apparaître réellement le billet de banque.
Il se matérialise. Voilà,
et il se matérialise. Si c'est le téléphone qui fait tout le tour de magie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Faut y ramener de l'humain. Je pense que quoi qu'il arrive, ce sera toujours plus fort de faire apparaître une pièce de monnaie derrière l'oreille d'un enfant que de sortir un truc de son téléphone. Mmh. Ça, c'est un avis personnel. On voit beaucoup sur les réseaux de magiciens, vraiment, il y a beaucoup de magiciens qui prennent des tours de magie, il y a beaucoup de gens qui expliquent des tours de magie sur les réseaux aussi, mais ça c'est pas très grave finalement, nous ça nous inquiète pas vraiment parce qu'on se dit que quelqu'un qui voit le truc, je suis pas sûr qu'il mémorise forcément le secret tout de suite, et puis ça veut pas dire qu'on aura pas de plaisir à regarder un tour de magie quand même derrière. Enfin, vous avez vu comme moi plein de films avec des effets spéciaux, vous regardez les bonus sur du film, ben on vous explique le trucage et pourtant on prend toujours autant de plaisir à voir le film,
oui,
alors qu'on sait très bien que le dinosaure dans le film n'existe pas. Mais on a toujours une partie de nous qui a envie de croire à des émerveillements. Et je crois que... Non, et puis alors, le succès, la Maison de la Magie, ouais, on a quand même augmenté la fréquentation de 25% en 3 ans. Je pense quand même que c'est la preuve aussi qu'il y a un intérêt pour la magie.
Okay.
Vraiment.
Est-ce que la Maison de la Magie est un atout pour la ville de Blois?
Ah oui, je pense que c'est un vrai... Je ne vais pas vous dire le contraire, mais... oui, c'est un outil touristique essentiel aujourd'hui à Blois, oui, tout à fait. On a fait 25 000 personnes de plus en 3 ans. Donc c'est-à-dire que la progression, quand même, est énorme. Ouais.
Et du coup, tout à l'heure, on a parlé très rapidement de budget, mais... et on voit bien que le budget global, c'est difficile à distinguer du budget de la ville. Par contre, est-ce qu'elle s'autofinance, la Maison de la Magie, avec les spectateurs qui viennent payer leur entrée?
En fait, on est à l'équilibre chaque année. C'est-à-dire que dans les investissements, les choix qui sont faits de spectacles ou autres, il y a l'objectif déjà d'équilibre, effectivement. Après, on reste un outil touristique et culturel qui dépend effectivement d'une collectivité. Donc, dans les investissements qui sont faits, tout est calculé effectivement pour l'équilibre. Et puis, bien évidemment, si on est en positif, ça arrive quand même. C'est très bien. On n'est pas comme une entreprise touristique où il y a un objectif de chiffre d'affaires précis. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant dans le côté collectivité. C'est-à-dire que ça nous permet aussi de proposer parfois des spectacles, un peu comme le ferait une scène nationale ou autre, comme on ne cherche pas forcément la rentabilité, de pouvoir proposer des spectacles à des prix intéressants d'entrée. Parce que forcément, selon certains spectacles, si vraiment on voulait gagner, il faudrait mettre des prix d'entrée à 50 euros.
Si c'était privé, ce serait beaucoup plus cher.
Oui.
En gros.
Oui. Ouais. Ouais.
Ok. Oui, donc vous êtes un peu dans le mouvement artistique. Je pense à la Fondation du Doute, qui fonctionne un peu de la même façon.
Ah bon, on fonctionne pareil. C'est-à-dire que c'est la même, même politique, ouais.
C'est ça.
Ouais.
Ok.
De toute façon, on partage nos réunions avec le Gilles Rion, directeur de la Fondation du Doute.
Et est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter?
C'est vrai qu'il y avait cette question-là. On demande toujours un peu... Il y a deux questions. Il y a la question de l'anecdote qui est rigolote ou qui a vécu la Maison de la Magie, plus particulièrement. Et puis la question de la musique, parce qu'on va mettre un peu de musique dans notre émission. Et est-ce que peut-être il y a des musiques propres au monde de la magie que vous pouvez nous conseiller de mettre dans l'émission?
Alors, en magie, ça, la musique, il y a tous les styles. Hein. Vraiment, c'est vraiment très varié. Ça dépend vraiment, j'ai envie de dire, ça dépend du magicien, vraiment. Donc là, ça serait difficile pour moi de vous conseiller. Parce que forcément, il y a des magiciens qui vont travailler plus dans un style contemporain, finalement, qui vont être plus proches de la Fondation du Doute, quelque part. Ouais. Puis des magiciens qui vont travailler plus en événementiel, donc qui vont utiliser les tubes du moment. Nous, c'est... Maison de la Magie, par exemple, cette année on avait un spectacle sur le thème de la magie foraine, donc on était plutôt
sur la musique foraine.
La musique foraine, l'année dernière c'était un thème marin, c'était de la musique plutôt irlandaise, donc on est vraiment sur des styles complètement différents, donc là c'est assez délicat, difficile pour moi de vous donner vraiment.
Oui, en même temps si c'est le thème c'est forain.
C'est magie foraine cette année, voilà.
Musique foraine.
Oui. Et puis.
Anecdote.
Alors c'est marrant, mais et pourtant ça fait 25 ans, ça fait 5 ans que je suis directeur et 25 ans que je travaille là. Anecdote. Il y a une anecdote que je n'ai pas connue, mais qu'on m'a souvent racontée. Il y a un magicien américain qui travaillait à la Maison de la Magie qui s'appelait Jonathan David Bass, qui faisait apparaître des oiseaux sur scène. Et son final, c'était qu'il mettait les oiseaux dans une cage et la cage se transformait en serpent. Il avait une espèce de boa qui faisait apparaître. Et on m'a souvent raconté, et j'y pense parce que là on croise l'équipe d'entretien, que on a deux loges à l'arrière-scène, et donc il y avait une loge pour lui, et il y avait une loge pour le serpent. C'est-à-dire que le serpent était en liberté dans la loge. Et on m'a souvent raconté que l'équipe d'entretien, qui n'était pas au courant quand il est arrivé le matin, a vu un serpent de plus de 2 mètres dans la loge, et que là, manifestement, ça a créé la panique. Ouais. Après, une autre anecdote,
pas mal, ça.
C'est que dans la maison, pareil, on a pris l'ascenseur tout à l'heure. En fait, notre ascenseur, il joue des tours, c'est-à-dire que des fois, il se déplace tout seul. Donc, les portes s'ouvrent, il descend d'un niveau ou autre. Et donc, il y a des gens, des fois, notamment dans le personnel, qui ont un peu peur de venir travailler à la Maison de la Magie, parce qu'ils ont l'impression que c'est hanté.
La
voilà.
Maison de la Magie est hantée. Ouais.
Donc, moi qui passe...
Vous faites bien de nous dire ça qu'à la fin.
Voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez, la Maison de la Magie est allumée. Moi, c'est vrai que quand je suis seul dans la maison, tout est éteint et je me déplace comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça... Encore plus quand on est tout seul, et puis voilà, on peut entendre des bruits, des choses étranges, ouais. Voilà. C'est peut-être le fantôme de Robert Houdin. Voilà.
J'entends peut-être, hein.
Ouais, peut-être.
D'abord, je supplie que tu me fais belle.
Oui, c'est pour la radio.
Ah bon, alors.
Les rencontres d'Elios.
L'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommery.
Les rencontres d'Elios.
Avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien.
Bah oui, c'est mieux. On n'arrive pas à se comprendre du coup. C'est mieux, génial.